Chapitre 9, Réveil. Les appels. Que le message évangélique résonne dans nos églises, pour les appeler à une action universelle. Que les membres d'église augmentent leur foi, reçoivent un zèle accru de la part de leurs alliés invisibles du ciel, de la connaissance de leurs ressources inépuisables, de la grandeur de l'entreprise dans laquelle ils sont engagés, et de la puissance de leur guide. Ceux qui se placent sous le contrôle de Dieu, pour se laisser conduire par lui, entreront dans la trame solide des événements qu'il a préparés. Inspirés par l'esprit de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde, ils ne demeureront pas longtemps dans l'impuissance pour s'attarder sur ce qu'ils sont incapables de faire. Revêtus de l'armure divine, ils s'avanceront sur le champ de bataille avec le désir de combattre pour Dieu, sachant que sa toute-puissance répondra à leurs besoins. Réveillons-nous. La bataille fait rage. La vérité et l'erreur approchent de leur conflit ultime. Marchons sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel, et combattons le bon combat de la foi, pour remporter les honneurs éternels. Car la vérité triomphera, et nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Les heures précieuses de l'approbation sont sur le point de se terminer. Accomplissons un bon travail en vue de la vie éternelle, afin de glorifier notre Père céleste et d'être des instruments pour sauver des âmes en faveur desquelles le Christ est mort. Un ordre de marche. Le duc de Wellington était un jour présent à une réunion de chrétiens qui discutait des possibilités de succès d'une œuvre missionnaire entreprise parmi les païens. Ils en appelèrent au duc pour savoir s'il pensait que ses efforts auraient un succès en rapport avec ce qu'il coûtait. Le vieux soldat répondit, « Messieurs, quel est votre ordre de marche ? La question n'est pas de savoir si vous réussirez. Si je lis bien, l'ordre qui vous a été donné est celui-ci, allez dans le monde entier, et prêchez l'évangile à toute créature. Messieurs, il ne vous reste qu'à obéir. » Pas de délai. Le grand jour de l'Éternel est proche, il est proche, il arrive en toute hâte. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, pour marcher au temps convenable. Les membres d'église doivent être toujours prêt, sur l'ordre du Maître, à se mettre à l'œuvre. Où que nous voyons un travail à faire, accomplissons-le en ayant les regards fixés sur Jésus. Si, chaque membre d'Église, était un vrai missionnaire, l'Évangile serait proclamé en peu de temps à tout pays, à toute nation, et à toute langue. Notre monde approche de sa fin. Une grande tâche est devant nous, celle de donner à l'humanité un ultime avertissement. Dieu prendra des hommes derrière leur charrue, dans leur vigne, partout, pour les envoyer prêcher son message à la terre entière. Faites retentir la trompette sur toute la terre. Dites au monde que le jour de Dieu est proche, qu'il arrive en toute hâte. Que personne n'ignore l'avertissement. Nous pourrions nous trouver à la place de ces âmes qui croupissent dans l'erreur. Nous pourrions être au nombre des barbares. Nous devons faire part à d'autres des vérités qui nous ont été communiquées. Frères et sœurs, il est trop tard pour consacrer votre temps et vos forces au service du moi. Que le dernier jour ne vous trouve pas destitué du trésor céleste. Efforcez-vous de multiplier les triomphes de la croix et d'éclairer les âmes, travaillez au salut de vos semblables, votre œuvre alors supportera l'épreuve du feu. Il faut que ce message soit donné rapidement, règle sur règle, précepte sur précepte. Les hommes devront bientôt prendre des décisions importantes. Nous devons donc faire en sorte qu'ils aient l'occasion de comprendre la vérité, afin qu'ils puissent en connaissance de cause se placer du bon côté. Le Seigneur invite son peuple à travailler, avec ferveur et avec sagesse, pendant que se prolonge le temps de grâce. Nous n'avons pas de temps à perdre. La fin est proche. Le chemin à parcourir sera bientôt bordé de dangers, de part et d'autre. L'ennemi fera tout ce qui sera en pouvoir pour obstruer la voie des messagers du Seigneur en sorte qu'il ne leur sera plus possible de faire alors ce qu'ils peuvent accomplir aujourd'hui. Nous devons regarder notre travail bien en face et aller de l'avant aussi rapidement que possible. Dieu m'a montré que les puissances des ténèbres sont à l'œuvre sur la terre avec un grand déploiement d'énergie tandis que Satan s'avance furtivement pour surprendre ceux qui sont endormis, à la manière du loup qui fond sur sa proie. C'est maintenant le moment de proclamer l'avertissement, c'est maintenant le moment de travailler, car les difficultés seront bientôt plus grandes que nous ne pouvons nous l'imaginer. Que Dieu nous aide à rester sur le bon chemin, à travailler les yeux fixés sur Jésus, notre chef, et à avancer patiemment, sans jamais nous lasser jusqu'au jour de la victoire finale. Il est dangereux de remettre à plus tard. Cette âme, que vous auriez pu trouver, à laquelle vous auriez pu révéler les Écritures, s'éloigne sans que vous l'ayez atteinte. Satan a préparé un piège sur sa route, et demain cette âme appliquera peut-être les plans de l'ennemi de Dieu. Pourquoi tarder un jour de plus? Pourquoi ne pas se mettre au travail sur le champ? La vigilance et la fidélité ont été exigées des disciples du Christ dans tous les temps. Mais de quelle diligence ne devons-nous pas faire preuve maintenant que nous sommes sur le seuil même du monde éternel, riche des vérités qui nous ont été révélées, possédant une si grande lumière, et ayant une œuvre si importante à accomplir? Chacun doit travailler jusqu'aux limites de ses possibilités. Mon frère, vous mettez en péril votre propre salut si vous ne vous donnez pas sans réserve. Vous aurez un compte à rendre à Dieu si vous échouez dans l'œuvre qu'il vous a assignée. Question importante. L'éternité est bientôt là. Le rideau qui nous cache l'avenir va se lever. Pourquoi rester attaché égoïstement à nos aises, alors que des âmes périssent autour de nous? Nos cœurs seraient-ils totalement endurcis? Ne pouvons-nous pas voir et comprendre que nous avons une œuvre à accomplir en faveur de nos semblables? Frères et sœurs, êtes-vous de ceux qui, ayant des yeux, ne voient point, des oreilles et n'entendent point? Est-ce en vain que le Seigneur vous a fait connaître sa volonté? Est-ce en vain qu'il vous a adressé avertissement sur avertissement concernant la proximité de la fin? Croyez-vous aux déclarations de sa parole au sujet des choses qui vont arriver? Croyez-vous que les jugements sont suspendus sur les habitants de la terre? Si oui, comment pouvez-vous rester tranquille, oisif et indifférent? L'appel au réveil. Tandis que l'œuvre est sur le point de se terminer, le mal grandit de tous côtés. Il ne nous reste que peu de temps pour travailler. Réveillons-nous de notre sommeil spirituel, et consacrons au Seigneur tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Son esprit reposera sur tous les missionnaires sincères, leur transmettant la puissance nécessaire à leur apostolat. Réveillez-vous, frères et sœurs, réveillez-vous. Ne dormez pas plus longtemps. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Jésus vous appelle, disant, « Allez aussi à ma vigne ». Celui qui a reçu le Saint-Esprit doit le manifester. Car toutes ses forces doivent être consacrées au service le plus actif. Tous ceux qui ont reçu le Christ par la foi travaillent. Ils sentent le poids des âmes. Dieu appelle maintenant tous ceux qui ont la connaissance de la vérité, et qui en sont les dépositaires à se lever pour partager avec d'autres la lumière du ciel. Réveillez-vous, frères. Pour le salut de votre âme, réveillez-vous. Sans la grâce du Christ, vous ne pouvez rien faire. Travaillez tandis que vous le pouvez. Si nos yeux pouvaient voir les anges déchus en action contre ceux qui s'abandonnent à une fausse sécurité, nous ne nous sentirions vraiment pas à notre aise. Ces anges sont sur nos traces sans relâche. Dieu nous appelle tous, prédicateurs, laïcs, à nous réveiller. Le ciel tout entier est en état d'alerte. Le rideau descendra bientôt sur le dernier acte de l'histoire du monde. Nous traversons les périls des derniers jours, mais les plus grands dangers sont encore devant nous, et cependant nous dormons. Ce manque d'activité et de zèle pour la cause de Dieu est effrayant. Cette stupeur mortelle vient de Satan. Que dirais-je pour réveiller le reste du peuple de Dieu? J'ai vu que des scènes terribles étaient devant nous. Satan et ses anges mettent toutes leurs énergies à s'opposer au réveil du peuple de Dieu. Ils savent que si l'Église reste endormie un peu plus longtemps, elle court à sa perte. Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute âme est sur le point d'être décidé pour toujours, le Seigneur attend que son Église se réveille pour agir comme jamais auparavant. Ceux qui ont été libérés en Christ par la connaissance de la vérité, sont considérés par Dieu comme ses élus, qu'il favorise plus que tous les peuples de la terre. Les bénédictions qui leur sont si généreusement accordées doivent être communiquées aux autres. Il faut que la bonne nouvelle du salut soit portée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il n'y a pas une personne sur 100, parmi nous, qui fasse quelque chose de plus que de travailler dans des entreprises terrestres. Nous sommes à peine à moitié conscients de la valeur des âmes en faveur desquelles le Christ est mort. Si les disciples de Jésus-Christ étaient à la hauteur de leur tâche, il y aurait dans les pays païens des milliers de prédicateurs de l'Évangile là où il n'y en a qu'un aujourd'hui. Et tous ceux qui ne pourraient pas se consacrer personnellement à l'œuvre la soutiendraient de leurs dons, de leur sympathie et de leurs prières. On travaillerait aussi au salut des âmes avec beaucoup plus d'ardeur en pays chrétien. Des milliers de personnes jouissent d'une grande lumière et ont de précieuses occasions, mais elles n'usent ni de leur influence ni de leur argent pour en éclairer d'autres. Elles ne prennent même pas la peine de garder leurs âmes dans l'amour de Dieu, afin de ne pas devenir un fardeau pour l'Église. De telles personnes seraient un poids et une entrave dans le ciel. Pour l'amour du Christ, pour la cause de la vérité et pour leur propre salut, ces gens feraient bien de s'éveiller et de se mettre de toute urgence au travail pour l'éternité. L'Église du Christ peut très bien se comparer à une armée. La vie de chaque soldat est faite de travail, de difficultés et de dangers. De tous côtés se trouvent des ennemis vigilants, sous la direction du prince de la puissance des ténèbres, qui jamais ne s'assoupit et jamais ne déserte son poste. Dès que le chrétien cesse de se tenir sur ses gardes, son puissant adversaire déclenche brusquement une attaque violente. Si les membres d'Église ne sont ni vigilants, ni actifs, ils seront vaincus par ses ruses. Qu'arriverait-il si la moitié des soldats d'une armée s'endormait ou tardait à exécuter les ordres reçus? Il en résulterait la défaite, la captivité ou même la mort. Si certains d'entre eux parvenaient à s'échapper des mains de l'ennemi, seraient-ils dignes de recevoir une récompense? Non. Ils savent qu'ils seraient plutôt condamnés à mort. Or, lorsque l'Église du Christ est insouciante ou infidèle, les conséquences en sont encore infiniment plus graves. Que peut-on imaginer de plus désastreux qu'une armée de soldats chrétiens succombant au sommeil? Comment cette armée pourrait-elle réussir dans son combat contre le monde, lequel se trouve sous le commandement du prince des ténèbres? Ceux qui demeurent dans l'indifférence au jour de la bataille, comme s'ils ne portaient pas d'intérêt à l'issue du conflit, ou n'étaient pas conscients de leurs responsabilités, feraient mieux de changer leur attitude ou de quitter immédiatement les rangs. Une action est nécessaire. Il m'a été montré que le peuple de Dieu s'attendait qu'un changement survienne, qu'une puissance contraignante s'empare de lui. Mais il sera déçu dans cette attente. Il faut agir. Il faut se mettre au travail et demander à Dieu avec instance de nous donner une exacte connaissance de nous-mêmes. Les scènes qui se déroulent devant nous sont assez impressionnantes pour nous inciter à nous éveiller et à communiquer la vérité à tous ceux qui voudront l'entendre. La moisson du monde est sur le point de mûrir. Tout dans l'univers invite ceux qui connaissent le Seigneur à se consacrer sans réserve à la proclamation de la vérité telle qu'elle s'est manifestée à eux par le message du troisième ange. Ce que nous voyons et entendons constitue un appel au devoir. L'activité des puissances sataniques oblige chaque soldat du Christ à occuper sa place sur le champ de bataille. Le message du prochain retour du Christ doit être proclamé à toutes les nations de la terre. Pour vaincre les forces de l'ennemi, des efforts vigilants et inlassables sont indispensables. Notre devoir n'est pas de rester inactif, de verser des larmes ou de nous tordre les mains, mais de nous lever et de travailler pour le temps présent et pour l'éternité. Agis dès maintenant, mais de toute ta force. Trop longtemps au repos, une aile d'ange se replierait. Et Dieu lui-même, inactif, cesserait de bénir. Que nul ne pense qu'il a le droit de se croiser les bras et de rester inactif. Il est absolument impossible d'être sauvé en étant indolent et inactif. Pensez à ce que le Christ a accompli au cours de son ministère terrestre. Considérez ses efforts énergiques et infatigables. Il ne se laissa détourner par rien de la tâche qui lui avait été confiée. Suivons-nous ses traces? Des agents humains et divins sont associés dans l'œuvre pour le salut des âmes. Dieu a fait sa part, les chrétiens doivent maintenant faire la leur. Dieu les appelle à cela. Il s'attend à ce que son peuple prenne part à la proclamation de la lumière de la vérité à toutes les nations. Qui veut entrer en collaboration avec le Seigneur Jésus-Christ? L'Église doit être une Église active si elle veut être une Église vivante. Elle ne devrait pas simplement se contenter de protéger son patrimoine contre les forces ennemies du péché et de l'erreur, de s'avancer d'un pas lent, mais elle devrait porter le joug du Christ et marcher sur les traces du guide, gagnant de nouvelles recrues tout le long du chemin. Il ne nous reste qu'un peu de temps pour terminer le combat. Alors le Christ reviendra, et cet épisode de rébellion sera clos. Nos ultimes efforts auront été consacrés au travail avec le Christ et à l'avancement de son règne. Certains, qui se sont tenus sur le front de la bataille, résistant avec zèle à l'avance du mal, tombent à leur poste. D'autres regardent avec tristesse ces héros terrassés mais n'ont pas le temps d'interrompre leur travail. Ils doivent serrer les rangs, reprendre la bannière à la main que la mort a paralysée, et, avec une énergie renouvelée, venger la vérité et l'honneur du Christ. Comme jamais auparavant, il faut résister au péché, aux puissances des ténèbres. Notre époque demande une activité énergique et déterminée de la part de ceux qui croient à la vérité présente. Ils doivent enseigner la vérité à la fois par le précepte et par l'exemple. Dieu appelle aujourd'hui les adventistes en tout lieu à se consacrer entièrement à lui, et à faire tout ce qu'ils peuvent, selon les circonstances, pour soutenir son œuvre. Paresse et religion ne marchent pas de pair. Et la cause de notre grande faiblesse dans la vie et l'expérience du chrétien est notre inactivité dans l'œuvre de Dieu. Les muscles de notre corps s'affaibliraient, s'atrophieraient s'ils ne s'exerçaient pas continuellement, et il en va de même dans le domaine spirituel. Si vous voulez être solide, vous devez exercer vos forces. Nous devons être des ouvriers diligents. Un homme paresseux est une créature misérable. Mais par quelle excuse peut-on justifier la paresse envers la grande œuvre pour l'accomplissement de laquelle le Christ a donné sa vie? Les facultés spirituelles cessent d'exister si elles ne sont pas exercées, et c'est le but de Satan de les détruire. Le ciel tout entier est engagé activement dans l'œuvre qui consiste à préparer un peuple pour la seconde venue du Christ sur cette terre, et nous sommes ouvriers avec Dieu. La fin de toute chose est imminente. C'est maintenant que nous devons travailler. Nous avons besoin de missionnaires ayant du cœur. Des efforts intermittents ne feront que peu de bien. Nous devons attirer l'attention des gens, et être animés d'une conviction profonde. Il en est parmi nous qui, s'ils se donnaient la peine d'y réfléchir, se rendraient compte que leur inactivité se résume en ceci, enfouir les talents que Dieu leur a confiés. Quelle est notre position dans le monde? Nous vivons en un temps d'attente. Mais cette période ne doit pas être consacrée à une dévotion abstraite. Il faut tout ensemble attendre, veiller et travailler avec vigilance. Notre vie ne doit pas se passer à nous agiter, à courir et à faire des projets en faveur des choses de ce monde, en négligeant la piété personnelle et le service que Dieu nous demande. Sans être indolents dans notre profession de foi, nous devons être fervents d'esprit, servant le Seigneur. La lampe de notre âme doit toujours être prête, étant sans cesse pourvue d'une suffisante réserve d'huile de la grâce. Tout doit être fait pour éviter le déclin spirituel, pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas comme un voleur. Nous vivons en un temps où toute paresse spirituelle doit être écartée. Chaque âme doit être animée par le souffle de la vie céleste. Accumulez toutes les bonnes œuvres qu'il vous est possible de faire durant cette vie. Jésus veut que tous ceux qui professent croire en son nom deviennent des ouvriers sincères et zélés. Il est nécessaire que chaque membre d'Église soit édifié sur le rocher du Christ. Une tempête se lèvera pour secouer et éprouver au maximum l'assise spirituelle de chacun. Par conséquent, évitez de bâtir sur le sable. Choisissez le roc. Creusez profondément. Posez des fondements sûrs. Construisez, oui, construisez pour l'éternité. Construisez avec des larmes, avec des prières ardentes. Dès maintenant, que chacun de vous embellisse sa vie par de bonnes œuvres. Les hommes ressemblant à Caleb sont ceux qui sont les plus nécessaires dans ces derniers jours. L'évaluation divine. Il y a une évaluation du caractère qui se poursuit sans cesse. Les anges de Dieu mesurent votre valeur morale et prennent note de vos actes, et ils présentent votre cas à Dieu. Individuellement, nous serons tenus responsables si nous faisons un iota de moins que ce que nous aurions dû faire. Le Seigneur mesure avec exactitude chacune de nos possibilités. Aussi sait-il ce qu'il peut attendre de nous. Les talents inutilisés entreront en ligne de compte au dernier jour aussi bien que ceux dont on aura fait usage. Car Dieu nous tient responsables de tout ce que nous pourrions devenir par un sage emploi des talents reçus. Nous serons jugés d'après ce que nous aurions pu faire, mais que nous n'avons pas fait parce que nous n'avons pas employé toutes nos facultés à la gloire de Dieu. Même si nous ne perdons pas notre âme, nous ressentirons pendant l'éternité la perte occasionnée par notre négligence à développer nos talents et nos connaissances. Ce qui aurait pu être. Si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, si chaque sentinelle placée sur les murs de Sion avait sonné de la trompette au moment voulu, le monde aurait déjà entendu le message d'avertissement. Mais l'œuvre est en retard de plusieurs années. Tandis que les hommes dormaient, Satan continuait son œuvre et devançait les hommes. Accomplissons maintenant le travail qui nous est assigné, et proclamons le message qui doit éveiller en tous le sentiment du danger. Si chacun de nous s'était acquitté de sa tâche, le nombre des croyants serait bien supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Dans toutes les villes d'Amérique, on aurait trouvé des personnes qui, après avoir entendu le message, obéirait à la loi de Dieu. Si les adventistes s'étaient conformés au dessein de Dieu en proclamant au monde le message de miséricorde, le Christ serait déjà revenu, et les saints fouleraient la cité céleste. Le registre du ciel. Le monde a besoin de missionnaires consacrés, et à moins de posséder l'esprit missionnaire, aucun chrétien ne pourra voir son nom inscrit dans le registre du ciel. Si les membres d'Église ne prennent pas individuellement part à cette œuvre, ils montrent qu'ils n'ont pas de communion réelle avec Dieu. Ils sont considérés comme des serviteurs paresseux. Dans tous les mouvements religieux se trouvent des gens qui, bien que persuadés de la vérité divine, se tiennent à l'écart et refusent de prêter leur concours. Il serait bon qu'ils se souviennent du livre du ciel où tout est enregistré, de ce livre où il n'y a ni omission, ni erreur, et par lequel nous serons jugés au dernier jour. Là, sont mentionnées toutes les occasions perdues. Mais là aussi sont inscrits tous les actes de foi et d'amour dont le souvenir est immortel. Au matin du 23 octobre 1879, vers 2 heures, l'Esprit du Seigneur reposa sur moi, et je contemplais les scènes du jugement à venir. 10 000 millions d'êtres étaient assemblés devant un grand trône, sur lequel était assis un personnage d'apparence majestueuse. Plusieurs livres étaient devant lui et sur la couverture de chacun d'eux, en lettres d'or qui paraissaient de flammes, on lisait « Grand livre du ciel ». L'un de ces livres, contenant les noms de ceux qui faisaient profession de croire à la vérité, fut alors ouvert. Je perdis immédiatement de vue la foule innombrable qui se tenait autour du trône et mon attention fut attirée sur ceux-là seulement qui faisaient profession d'être des enfants de la lumière et de la vérité. Un autre livre fut ouvert où étaient inscrits les péchés de ceux qui professaient croire à la vérité. Sous le titre général d'égoïsme, venaient de nombreux péchés. Un certain nombre d'hommes étaient inscrits comme des serviteurs occupant inutilement la terre. Tandis que l'œil perçant du juge s'arrêtait sur eux, leurs péchés de négligence leur furent clairement révélés. Les lèvres pâlées. Tremblantes, ils reconnurent avoir trahi la confiance que Dieu avait mise en eux. Ils avaient eu des avertissements et des privilèges, mais n'y avaient pas pris garde. Ils voyaient maintenant qu'ils présumaient beaucoup trop de la miséricorde divine. Il est vrai qu'ils n'avaient pas à confesser des péchés avilissants. Mais semblables au figuier, ils étaient maudits parce qu'ils n'avaient porté aucun fruit, ni fait fructifier leur talent. Ceux qui étaient ainsi condamnés n'avaient pensé qu'à eux-mêmes. Ils n'étaient pas riches aux yeux de Dieu, n'ayant point répondu à ce qu'ils réclamaient d'eux. Bien que se prétendant les serviteurs du Christ, ils ne lui avaient pas amené d'âme. Si la cause de Dieu avait dépendu d'eux, elle n'aurait fait que languir, car non seulement ils avaient gardé pour eux l'argent que Dieu leur avait confié, mais ils n'avaient pas davantage payé de leur personne. Ils avaient laissé les autres travailler dans la vigne du maître et porter les plus lourdes responsabilités, tandis qu'ils s'occupaient égoïstement de leurs intérêts terrestres. En développant les capacités que Dieu leur avait données, ils auraient pu être des serviteurs dignes de confiance. Mais le juge dit, « Tous seront justifiés par leur foi, et jugés par leurs œuvres. » Avec quelle force leur négligence ne parut-elle pas et combien fut évidente la sagesse du plan de Dieu qui donne à chaque homme une part dans l'œuvre du salut. Chacun avait à montrer une foi vivante dans sa famille, dans son voisinage, en étant bon envers les pauvres, plein de compassion pour les affligés, ardent au travail missionnaire et généreux pour la cause de Dieu. Mais, semblable à Mérose, la malédiction reposait sur eux pour ce qu'ils avaient négligé de faire. Ils avaient aimé le travail qui leur rapportait le plus de profit dans cette vie, et voici qu'en face de leur nom, dans les colonnes consacrées aux bonnes œuvres, il y avait un vide affreux. Il nous est demandé davantage qu'à nos pères. La lumière qui brille sur nous est plus grande que celle qui a brillé sur nos pères. Mais nous ne pouvons être acceptés et honorés de Dieu en le servant de la même façon qu'ils l'ont fait. Pour que Dieu nous accepte et nous bénisse, comme il les a acceptés et bénis, nous devons imiter leur foi et leurs œuvres, marcher selon la lumière qui nous a été donnée comme ils ont marché selon la lumière qu'ils avaient reçue. En somme, agir comme ils agiraient s'ils étaient à notre place. Il faut marcher dans la lumière qui brille sur nous, ou cette lumière se changera en ténèbres. Appel à l'Église indolente. On ne saurait comprendre pourquoi des centaines de personnes ne sont pas à l'œuvre là où il n'y en a qu'une. L'apathie, la froideur, l'indifférence de ceux qui se disent fils et filles de Dieu est un sujet d'étonnement pour l'univers céleste. Il y a une puissance de vie dans la vérité. Nous ne serons jamais sauvés dans l'indolence et l'inaction. Il n'est pas de personne véritablement convertie qui mène une vie inerte et inutile. Nous ne pouvons pas être traînés au ciel. Aucun paresseux n'y pénétrera. Ceux qui refusent d'être les collaborateurs de Dieu sur la terre ne seraient pas davantage au ciel, et il serait imprudent de les y introduire. Le ciel tout entier considère l'Église avec un immense intérêt, afin de voir comment chacun de ses membres s'y prend pour apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Vous devez considérer sérieusement le fait que vous vous trouvez en face d'un Dieu grand, et vous rappeler sans cesse qu'il n'est pas un enfant dont on puisse se moquer. Vous ne pouvez entrer à son service à votre gré, et le quitter selon votre bon plaisir. Des êtres célestes ont attendu pour collaborer avec des instruments humains, mais nous ne nous sommes pas aperçus de leur présence. Les anges ont attendu longtemps la collaboration des membres de l'Église pour l'œuvre qui doit s'accomplir. Ils vous attendent encore. Beaucoup, beaucoup de gens vont vers le jour du Seigneur en ne faisant rien, en fuyant leurs responsabilités, et il en résulte qu'ils sont des nains spirituels. Pour tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les pages de l'histoire de leur vie sont tristement vides. Ce sont des arbres dans le jardin de Dieu, mais qui ne font que l'encombrer, assombrissant de leurs branches stériles le sol sur lequel des arbres portant du fruit auraient pu pousser. Ceux qui ne font rien ou presque pour le Seigneur sont en danger. La grâce de Dieu n'habitera pas longtemps dans l'âme de celui qui, ayant de nombreux privilèges et beaucoup d'occasions, garde le silence. Ce n'est pas maintenant le moment de dormir, pas le moment de se complaire en regrets inutiles. Celui qui se laisse aller au sommeil perdra de précieuses occasions de faire le bien. Le privilège béni de rassembler de nombreuses gerbes lors de la grande moisson nous est assuré. Et toute âme sauvée représente une étoile de plus à la couronne de Jésus, notre adorable Rédempteur. Qui souhaiterait déposer les armes, sachant qu'en prolongeant un peu le combat il remporterait de nouvelles victoires et gagnerait de nouveaux trophées pour l'éternité? Les messagers célestes accomplissent leur travail. Mais nous, que faisons-nous? Frères et sœurs, Dieu vous appelle à racheter le temps. Approchez-vous de Dieu. Faites fructifier le talent qui est en vous. Que ceux qui ont eu le privilège de se familiariser avec les raisons de notre foi fassent maintenant usage de leurs connaissances. Comment pouvez-vous, vous qui répétez la prière du Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, rester tranquillement chez vous, sans aider à porter le flambeau de la vérité à ceux qui vous entourent? Comment pouvez-vous élever vos mains vers Dieu et lui demander de vous bénir ainsi que vos familles, alors que vous faites si peu pour aider vos semblables? Il en est parmi nous qui, s'ils se donnaient la peine d'y réfléchir, se rendraient compte que leur inactivité se résume en ceci, enfouir les talents que Dieu leur a confiés. Frères et sœurs, votre Rédempteur et tous les saints anges sont attristés par la dureté de votre cœur. Le Christ a donné sa vie pour le salut des âmes, et cependant, vous qui avez connu son amour, vous fournissez bien peu d'efforts pour faire connaître sa grâce à ceux pour lesquels il a donné sa vie. Une telle indifférence et une telle négligence étonnent les anges. Au jour du jugement, vous rencontrerez ce que vous avez négligé. En ce grand jour, vous verrez votre situation telle qu'elle est, et vous vous accuserez vous-même. Veuille le Seigneur vous amener à vous repentir. Puisse-t-il pardonner à son peuple d'avoir négligé de travailler dans sa vigne, comme il le lui avait ordonné? Que dire aux membres d'églises indolents pour qu'ils voient la nécessité de déterrer son talent et de le confier au banquier céleste? Il n'y a de place dans le royaume des cieux ni pour le paresseux, ni pour l'indolent. Veuille le Seigneur faire comprendre aux églises endormies toute l'importance de cette question. Que Sion se lève et se pare de ses vêtements de fête. Qu'elle fasse éclater sa splendeur. Il y a une œuvre à faire en faveur de ceux qui ne connaissent pas la vérité, pareille à celle qui fut accomplie à votre égard lorsque vous étiez dans les ténèbres. Il est trop tard pour dormir, trop tard pour devenir des paresseux indolents. À chacun le maître de maison a confié sa tâche. Ne reculons pas, mais allons de l'avant. Nous devons nous convertir chaque jour. L'amour de Jésus doit battre dans notre cœur, de telle sorte que nous devenions des instruments pour le salut des âmes. Le Seigneur Jésus demande que toute personne qui se prétend fils ou fille de Dieu n'abandonne pas seulement toute forme d'iniquité mais abonde en actes de charité, de renoncement à soi-même et d'humilité. Le Seigneur a rendu manifeste l'action produite par un certain état d'esprit et une certaine façon d'agir, afin que cela nous serve d'exemple pour l'œuvre que nous avons à accomplir. Il dit, « À celui qui n'a pas en ôtera même ce qu'il a. Ce qui n'exploite pas les occasions offertes, qui n'exerce pas la grâce que Dieu a mise en eux, ont de moins en moins envie de le faire, et perdent finalement, dans une léthargie somnolente, ce qu'ils ont un jour possédé. Ils ne font pas de provision pour les jours de disette en acquérant une grande expérience, une connaissance plus étendue des choses divines, de telle sorte que lorsque l'épreuve et la tentation fondent sur eux, ils soient capables de subsister. Lorsque survient la persécution ou la tentation, ces personnes perdent le courage et la foi, et leurs fondements sont balayés parce qu'elles n'ont pas vu la nécessité de les affermir. Elles n'ont pas rivé leur âme au rocher éternel. Au grand jour final, combien ce sera terrible de devoir constater que ceux avec lesquels nous avons été étroitement associés sont séparés de nous pour toujours, ou que les membres de nos familles, peut-être nos propres enfants, ne sont pas sauvés, ou que ceux qui nous ont rendu visite et ont mangé à notre table, sont au nombre des perdus. Alors, nous nous poserons la question. Est-ce la conséquence de mon manque de patience, de mes dispositions profanes, ou le fait que la religion du Christ a perdu son attrait pour eux provient-il de mon incapacité à maîtriser ma nature? Le monde doit être averti du prochain retour du Seigneur. Il ne nous reste que peu de temps pour accomplir cette œuvre. Des années sont passées dans l'éternité qui eussent pu être mieux employées à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et apporter la lumière à d'autres. Maintenant, Dieu adjure son peuple qui possède de grandes lumières et qui est fondé dans la vérité, conformément à l'importante tâche qui lui a été confiée, à travailler pour lui-même et pour autrui comme il ne l'a jamais fait auparavant. Utilisez toutes vos capacités. Exercez toutes vos facultés, tous les talents que vous avez reçus. Diffusez toute la lumière que Dieu vous a accordée pour répandre le bien autour de vous. N'essayez pas de devenir des prédicateurs, cherchez plutôt à être des ministres pour Dieu. The Southern Watchman, 20 juin 1905. Exemple convaincant. L'amour de Dieu s'est ému jusque dans ses profondeurs insondables pour le bien des hommes, et les anges s'étonnent de trouver si peu de gratitude chez ceux qui ont été les objets d'un si grand amour, de voir combien peu l'amour de Dieu est apprécié par les hommes. Le ciel s'indigne de voir les âmes humaines négligées. Voulons-nous savoir ce qu'en pense le Christ? Quels seraient les sentiments d'un père ou d'une mère dont on aurait laissé périr l'enfant, dans le froid et la neige, alors qu'on eût pu le sauver? Quelle douleur, quelle indignation! Ne flétrirait-il pas ses meurtriers? Les souffrances d'un homme sont celles d'un enfant de Dieu, et ceux qui ne tendent pas une main secourable à leur semblable en péril, s'attirent la juste colère de l'agneau. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, un jour d'hiver, se frayait un chemin à travers la neige épaisse, lorsqu'il fut saisi par le froid qui progressivement le vidait de ses forces. Il était sur le point d'abandonner la lutte pour survivre, engourdi à mort par le froid glacial, lorsqu'il perçut les gémissements d'un voyageur en train de mourir sous l'emprise du froid. Il rassembla ses forces pour le secourir. Il se mit à réchauffer les membres glacés de l'infortuné et, par de rudes efforts, réussit à le relever. Comme son compagnon ne pouvait pas se tenir debout, il l'empoigna et le porta à travers les couches de neige qu'il n'aurait jamais pu franchir tout seul. Et lorsqu'il eut réussi à mettre son semblable en lieu sûr, il devint aussitôt conscient du fait qu'en sauvant son prochain il s'était sauvé lui-même. Ses efforts violents destinés à secourir autrui avaient ranimé la circulation de son sang et introduit une salutaire chaleur dans tous ses membres. De telles leçons doivent être présentées sans cesse aux jeunes croyants, non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique, pour qu'à leur tour ils puissent enregistrer des résultats identiques dans leur expérience chrétienne. Vous ne devez pas vous refermer sur vous-même, et vous contenter d'avoir reçu la bénédiction de la connaissance de la vérité. Qui vous a apporté la vérité? Qui vous a montré la lumière de la parole de Dieu? Dieu ne vous a pas donné cette lumière pour que vous la placiez sous un boisseau. J'ai lu l'histoire de l'expédition lancée à la recherche de Sir John Franklin. Des hommes courageux avaient quitté leur foyer et erré sur l'océan Arctique, endurant les privations, la faim, le froid et l'adversité. Et pourquoi tout cela? Simplement pour l'honneur de découvrir les cadavres des explorateurs, ou, si c'était encore possible, de sauver une partie d'entre eux de la mort terrible qui les menaçait si les secours ne leur parvenaient pas à temps. S'ils avaient pu ne sauver qu'un seul homme du danger, ils auraient considéré toute leur souffrance comme largement payée. Et ils faisaient tout cela au détriment de leur confort et de leur bonheur. Pensez à cela et considérez le peu de choses que nous sommes prêts à sacrifier pour le salut des âmes précieuses qui nous entourent. On ne nous oblige pas à quitter notre maison, et à entreprendre un voyage long et fatigant, pour sauver la vie d'un homme en danger. À notre porte, tout autour de nous, de tous côtés, il y a des âmes en péril, des hommes et des femmes mourant sans espérance et sans Dieu, et cependant nous ne nous en préoccupons pas, disant virtuellement, par nos actions sinon par nos propos, suis-je le gardien de mon frère? Ceux qui perdent leur vie en s'efforçant de sauver les autres sont honorés dans le monde comme des héros et des martyrs. Comment nous sentirons-nous, nous qui avons la perspective de la vie éternelle devant nous, si nous ne consentons pas aux petits sacrifices que Dieu demande de nous pour le salut des âmes? Dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, on creusait un puits. Alors que le travail était presque terminé et que seul un homme restait au fond, la terre s'affaissa et l'ensevelit. Aussitôt on donna l'alarme et tous, ouvriers, paysans ou commerçants, accoururent pour le sauver. On apporta des cordes, des échelles, des bêches, des pelles. « Sauvez-le, oh, sauvez-le » criait-on de toutes parts. Les sauveteurs travaillèrent avec l'énergie du désespoir. La sueur coulait sur leurs visages et leurs bras tremblaient sous leurs efforts. Ils réussirent enfin à passer à travers la terre éboulée un tuyau, par lequel ils purent demander au malheureux s'il était encore en vie. « Oui, mais faites vite, car ma position est critique », répondit-il. Avec des cris de joie et redoublant d'efforts, les sauveteurs purent enfin arriver jusqu'à lui. Des ovations s'élevèrent alors de la foule jusqu'au ciel. « Il est sauvé », se répétait-on de rue en rue. Est-ce que la vie d'un seul homme méritait vraiment tant d'empressement et d'intérêt? Oui, certes, mais que valent quelques années ici-bas en comparaison de l'éternité? Si la crainte de la perte d'une vie humaine soulève dans les cœurs des sentiments aussi intenses, avec quelle sollicitude ceux qui prétendent se rendre compte du danger ne devraient-ils pas entourer les âmes qui se perdent loin du Christ? Ne faut-il pas que les serviteurs de Dieu montrent pour le salut de leurs semblables un intérêt et un zèle au moins aussi grand que les sauveteurs de cet homme enseveli dans un puits? Profession opposée à expression. Toute vérité importante reçue dans le cœur devrait trouver son expression dans la vie. C'est dans la proportion où ils ont reçu l'amour du Christ que les hommes désirent proclamer sa puissance aux autres. Et le fait de la proclamer approfondit et intensifie sa valeur dans leurs propres âmes. Notre foi doit produire d'abondantes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. Tous ceux qui reçoivent l'Évangile dans leur cœur auront le désir de le proclamer. L'amour du Christ doit se manifester. Il faut raconter les louanges du Seigneur en faisant tout ce qui dépend de nous pour contribuer à la gloire de son nom. À notre époque, la foi ne doit pas être une simple adhésion à la théorie du message du troisième ange. Il nous faut l'huile de la grâce du Christ pour que nos lampes puissent faire resplendir la lumière de la vie, indiquant la route à ceux qui sont dans les ténèbres. Votre force spirituelle et votre influence seront proportionnées au service d'amour accompli et aux bonnes œuvres réalisées. On pourrait faire beaucoup plus pour le Christ si tous ceux qui possèdent la lumière de la vérité s'y conformaient. Il m'a été montré que nous sommes faibles en tant que peuple. Nos œuvres ne correspondent pas à notre foi. Celle-ci rend témoignage que nous sommes engagés dans la proclamation du message le plus important et le plus solennel qui ait jamais été donné à des êtres mortels. Cependant, il faut reconnaître que nos efforts, notre zèle, notre esprit de sacrifice ne sont pas au niveau du caractère de cette œuvre. Nous devons nous réveiller d'entre les morts, et le Christ nous donnera la vie. Allez de l'avant et proclamez la vérité avec foi, avec conviction. Que ceux en faveur desquels vous travaillez se rendent compte qu'elle est pour vous une vivante réalité. Une vie imitant celle du Christ, ne l'oublions pas, est le plus fort argument qui puisse être avancé en faveur du christianisme. Il y en a beaucoup qui professent croire au nom du Christ et dont les cœurs ne sont pas engagés à son service. Ils font simplement preuve d'une certaine piété et, en agissant ainsi, ils ont rendu plus lourde leur condamnation et sont devenus des agents de Satan, plus trompeurs et plus efficaces, pour la ruine des âmes. Ceux qui attendent avec vigilance la venue du Seigneur ne restent pas oisifs. L'attente de la venue du Christ leur inspire la crainte du Seigneur, la crainte des jugements qui frapperont la transgression, et leur fait comprendre quel grand péché il y a à rejeter les offres de la grâce. Ceux qui attendent le Seigneur avec vigilance purifient leurs âmes en obéissant à la vérité et joignent à cette attente une activité intense. Ils savent que le Seigneur est à la porte, aussi désirent-ils vivement collaborer avec les intelligences divines en vue du salut des âmes. Tels sont les économes fidèles et prudents qui donnent aux domestiques du Seigneur leur ration de blé au moment convenable. Ils annoncent la vérité qui s'applique particulièrement à notre temps. Tout comme Enoch, Noé, Abraham, Moïse qui ont donné la vérité pour leur temps respectif, les serviteurs du Christ donnent actuellement l'avertissement particulier dont leur génération a besoin. Notre position devant Dieu dépend moins des lumières reçues que de l'usage que nous en faisons. Ainsi, les païens qui suivent ce qui est droit dans la mesure où ils peuvent le discerner, sont dans une condition plus favorable que les hommes possédant plus de lumière et faisant profession de servir Dieu mais qui méprisent la lumière et se conduisent de manière à démentir leur profession de foi. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Si tous ceux qui se disent chrétiens portaient du fruit à la gloire de Dieu, avec quelle rapidité le monde serait ensemencé de la semence évangélique, et le Christ reviendrait pour recueillir le précieux grain. Les chrétiens doivent se réveiller et s'acquitter des devoirs qu'ils ont négligés. Car le salut de leur âme dépend de leurs efforts individuels. Le culte véritable consiste à travailler en collaboration avec le Christ. Les prières, les exhortations et les conversations sont des fruits à bon marché souvent liés en gerbe. Mais les fruits qui se sont manifestés en bonnes œuvres telles l'assistance à ceux qui sont dans le besoin, aux veuves et aux orphelins, ceux-là sont de vrais fruits, et ils poussent tout naturellement sur un bon arbre. Que tous les membres d'Église s'acquittent de la tâche qui leur a été confiée et qui consiste à répandre la lumière sert dans la vigne du Seigneur. Le principe de l'action est le fruit que le Christ nous enjoint de porter. Pratiquer la bienfaisance, prodiguer de bonnes paroles et considérer avec tendresse le pauvre, le nécessiteux et l'affligé. Dès qu'elle eut parlé à Jésus au puits de Jacob et qu'elle eut trouvé un sauveur, la Samaritaine s'empressa d'en envoyer d'autres à lui. Elle donnait ainsi la preuve qu'elle était un missionnaire plus efficient que les propres disciples du Christ. Ceux-ci n'avaient découvert aucun signe en Samarie leur indiquant qu'il s'agissait d'un champ fertile. Leur pensée se portait plutôt sur une grande œuvre à réaliser dans l'avenir. Ils ne s'apercevaient pas que tout autour d'eux se trouvait une moisson prête à être recueillie. Mais grâce à cette femme qu'ils méprisaient, une ville entière fut amenée à écouter Jésus. Elle porta d'emblée la lumière à ses concitoyens. Cette femme est un symbole de la manifestation d'une foi pratique au Sauveur. Les adventistes du septième jour font des progrès, doublent leur nombre, établissent des missions, déploient la bannière de la vérité dans les endroits enténébrés de la terre. Et cependant l'œuvre se développe beaucoup plus lentement que Dieu ne l'aurait souhaité, pourquoi? Les membres d'Église ne sont pas individuellement éveillés pour produire l'effort sérieux qu'ils sont capables de faire, et chaque branche de l'œuvre est paralysée par le manque de piété fervente et d'ouvriers dévoués, humbles et craignant Dieu. Où sont les soldats de la croix du Christ? Que ceux qui craignent Dieu, qui sont honnêtes, ont le cœur pur et prennent un soin jaloux de la gloire de Dieu, se préparent en vue de la bataille contre l'erreur. Il y a trop de cœurs craintifs et lâches à cette heure de conflit spirituel. Oh! Que de faibles ils puissent devenir forts, et vaillants au combat, afin de mettre en fuite les armées ennemies. Un principe universel veut que lorsqu'on ne fait pas usage des dons reçus de Dieu, ceux-ci périclitent et finissent par disparaître. La foi qui n'est pas vécue, qui n'est pas communiquée, perd de sa puissance vivifiante, de sa vertu salutaire. Rien ne donne des os et des nerfs à votre piété comme de travailler à l'avancement de la cause que vous professez aimer, au lieu de la garrotter. Ceux qui prétendent maintenir leur vie chrétienne en se bornant à accepter passivement les grâces d'en haut sans rien faire pour le Christ, essaient simplement de manger sans travailler. Or, dans le monde spirituel, comme dans le monde matériel, ce système aboutit fatalement à la dégénérescence et à la mort. Danger qui menace l'activité missionnaire. N'oublions pas que si nos activités augmentent et si nous remportons quelques succès dans l'accomplissement du travail qui nous incombe, nous courons le danger de nous fier aux plans et aux méthodes des hommes. Une tendance à prier moins et à faire preuve de moins de foi peut se manifester. Nous serons en danger de perdre le sens de notre dépendance envers Dieu qui seul peut rendre notre travail fructueux. Mais bien que ce soit la tendance générale, que personne ne pense que l'instrument humain doit faire moins. Non, il ne doit pas faire moins, mais faire plus, en acceptant le don céleste du Saint-Esprit. Des temps viendront où l'Église sera animée par la puissance divine, et une activité plus intense en sera le résultat. Car la puissance régénératrice du Saint-Esprit inspirera ses membres pour aller de l'avant et amener des âmes au Christ. Mais lorsque cette activité se manifestera, les ouvriers les plus zélés ne seront en sécurité que s'ils dépendent de Dieu par une prière constante et fervente. Ils devront adresser de vives supplications afin que la grâce du Christ les préserve de s'enorgueillir de leur travail et de considérer leurs activités comme un moyen de salut. Ils doivent constamment regarder à Jésus, afin d'être conscients du fait que c'est sa puissance qui accomplit tout le travail et afin d'en attribuer la gloire à Dieu. Nous serons appelés à faire des efforts toujours plus conséquents pour étendre l'œuvre de Dieu, et la prière à notre Père Céleste sera de plus en plus importante. Il sera nécessaire de se consacrer à la prière dans le secret, dans la famille et dans l'Église. Les rabbins estimaient une activité tumultueuse comme la plus haute expression de la piété. Celle-ci devait se montrer par des actes extérieurs. Ils s'éloignaient donc de Dieu et se drapaient dans leur propre suffisance. Les mêmes dangers existent aujourd'hui. Dans la mesure où l'activité s'accroît et où l'on réussit dans ce que l'on fait pour Dieu, on risque de mettre sa confiance dans des méthodes et des plans humains. On est enclin à prier moins, à avoir moins de foi. On risque, ainsi que les disciples, de ne plus sentir sa dépendance à l'égard de Dieu et de chercher un moyen de salut dans sa propre activité. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront, d'une manière durable, la bonne cause. Encouragement à ceux qui entrent dans le service chrétien. Les ouvriers qui ont le plus de succès sont ceux qui accomplissent joyeusement leurs tâches en servant Dieu dans les petites choses. Chaque être humain doit arriver à reproduire le divin modèle. Nous devons nous efforcer de rendre nos actes journaliers de dévotion de plus en plus utiles, du fait que nous voyons notre œuvre à travers la lumière de l'éternité. Dans son vaste plan, le Seigneur a une place pour chacun. Aucun talent n'est inutile. À chacun il donna sa tâche, car chacun est appelé à collaborer avec lui au salut des âmes. Notre champ d'activité ici-bas est tout aussi certain que la place que le Seigneur est allé nous préparer dans les parvis célestes. Dieu a les yeux fixés sur ses enfants, et il a un plan bien défini pour chacun d'eux. Tous peuvent se rendre utiles à l'œuvre. À moins d'avoir travaillé sincèrement et d'une manière désintéressée en faveur du salut des âmes, personne ne pourra se disculper devant Dieu. Votre devoir ne peut être accompli par quelqu'un d'autre. Nul autre que vous ne peut remplir votre tâche. Si vous ne faites pas briller la lumière que vous possédez, quelqu'un, par votre faute, sera laissé dans les ténèbres. Celui qui obéit avec humilité aux appels de Dieu peut être assuré de son assistance. Accepter une responsabilité aussi grave et aussi sacrée nous garantit la perfection du caractère, met à réquisition nos facultés mentales et spirituelles les plus nobles, fortifie et affine l'esprit et le cœur. On est surpris parfois de voir combien, avec la force d'en haut, un être faible peut produire d'efforts puissants et productifs. Celui qui débute avec un minimum de savoir, se contentant de dire ce qu'il sait, tout en travaillant à acquérir d'autres connaissances, s'apercevra bien vite que tous les trésors du ciel seront mis à sa disposition. Plus il s'efforcera d'expliquer à d'autres la parole de Dieu, plus elle deviendra claire à ses propres yeux. L'usage de nos connaissances et de nos forces conditionnera nos progrès et notre puissance. Que chacun travaille pour Dieu et pour les âmes. Que chacun fasse preuve de sagesse, et qu'il n'attende pas, dans la paresse, que quelqu'un l'invite à se mettre au travail. Ce quelqu'un qui pourrait vous inviter à travailler est surchargé de responsabilités, et vous perdez votre temps à attendre son intervention. Dieu vous donnera la sagesse pour changer d'un seul coup votre façon de voir, car son appel se fait toujours entendre, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur introduit son invitation par le mot affectueux d'enfant, si plein de tendresse, de compassion, et cependant si urgent. Son invitation est en même temps un ordre. C'est en travaillant avec zèle au service de Dieu qu'on acquiert le plus de force pour résister au mal. Chaque geste, chaque acte de justice, de miséricorde et de bienfaisance rejaillit au ciel sous forme de musique. L'Esprit de Jésus-Christ est un esprit missionnaire. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au Sauveur. Le seul moyen de croître en grâce est d'accomplir avec désintéressement l'œuvre même que le Christ nous demande de réaliser. N'attendez pas de grandes occasions, ni des dons remarquables avant de commencer à travailler pour Dieu. L'homme bénéfique à la société et dont la vie est une vraie réussite est celui qui, ayant reçu ou non une formation intellectuelle, met toutes ses facultés au service de Dieu et de ses semblables. Bien des personnes, que Dieu a douées de telle manière qu'elles pourraient faire un excellent travail pour lui, ne font que peu de choses parce qu'elles ne tentent pas beaucoup. Si vous échouez 99 fois sur 100, mais réussissez à sauver une âme, vous avez accompli une noble action pour la cause du Maître. Les rapports entre chaque âme et Dieu sont aussi distincts, aussi suivis, que s'il n'y avait que cette seule âme pour laquelle il ait donné son Fils bien-aimé. Le Seigneur vous voit, et vous comprend. Il vous emploiera, malgré votre faiblesse, si vous consacrez à son service les talents qu'il vous a confiés. Car le faible devient fort s'il se livre à un service actif, désintéressé. Il jouit de la précieuse approbation de Dieu. La joie du Seigneur est un élément de force. Si vous êtes fidèle, la paix qui surpasse toute intelligence sera votre récompense en cette vie. Et dans la vie future, vous entrerez dans la joie de votre Seigneur. Des personnes qui ont reçu peu de talent peuvent gagner beaucoup d'âmes au Christ, si elles s'attachent à maintenir leur cœur dans l'amour de Dieu. Harlan Page était un modeste mécanicien de peu d'habileté et d'une instruction limitée, mais il décida de faire de l'avancement de la cause de Dieu sa préoccupation principale, et ses efforts furent couronnés de succès remarquables. Par des entretiens individuels et des prières sincères, il travailla au salut de ses semblables. Il organisa des réunions de prière, des écoles du dimanche et distribua des brochures et autres publications. Et sur son lit de mort, lorsque le voile de l'éternité s'éteint. Dès sur son visage, il prononça ces mots. « Je sais qu'est-ce uniquement à la grâce de Dieu et non pas à mes mérites personnels que je dois d'avoir pu accomplir quelque chose, mais je puis être assuré que plus d'une centaine de personnes ont pu être conduites à Dieu par mon intermédiaire. » Ce monde n'est pas un paradis pour le chrétien, mais plutôt l'atelier de Dieu où nous faisons notre apprentissage pour pouvoir vivre au ciel en compagnie des saints anges. Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais, par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de bénédictions qui augmenteront en étendue et en profondeur, et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. Il peut n'avoir pas l'impression de faire de grandes choses, et il n'a pas à se préoccuper du succès. Il n'a qu'à aller tranquillement de l'avant, s'acquittant fidèlement de la tâche que la providence de Dieu lui a assignée, et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l'image de Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie, et se préparera ainsi pour l'œuvre plus grande et la joie sans mélange de la vie à venir. Nombreux sont ceux qui se sont donnés au Christ et qui, néanmoins, ne trouvent aucune occasion de faire de grandes choses pour son service. Qu'ils se consolent à l'idée que ce n'est pas nécessairement le sort du martyr qui est le plus agréable à Dieu. Il se peut que ce ne soit pas le missionnaire qui affronte tous les jours le danger et la mort qui occupe la première place dans les livres du ciel. Celui qui est réellement chrétien dans sa vie privée, dans ses luttes quotidiennes contre le moi, et qui en témoigne par la sincérité et la noblesse de ses pensées, par sa douceur sous la menace, par sa fidélité dans les petites choses, par sa foi et sa piété. Celui qui, dans sa vie de famille, représente le caractère du Christ, Celui-là peut être plus précieux aux yeux de Dieu que le missionnaire ou le martyr dont le nom est porté sur les ailes de la renommée. Ce qui fait la valeur de notre service aux yeux de Dieu, ce n'est pas la somme de travail que nous faisons ni les résultats visibles de notre effort, mais l'esprit avec lequel nous besognons. L'approbation du maître n'est pas accentuée du fait de l'étendue de l'œuvre accomplie ou du nombre de gains, mais du fait de la fidélité manifestée jusque dans les plus petites choses. Ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les résultats importants obtenus, mais les mobiles qui sont à la base de nos actes. Il apprécie davantage la bonté et la fidélité apportées dans l'œuvre accomplie que l'étendue même de cette œuvre. Ne négligez pas les petites choses dans l'espoir de faire une œuvre plus importante. Il se peut que vous réussissiez un petit travail alors qu'en voulant en entreprendre un plus grand, vous échouiez lamentablement et tombiez ainsi dans le découragement. Faites ce qui se présente à vous. Que vous soyez riche ou pauvre, grand ou petit, Dieu vous appelle à le servir d'une manière active. C'est en accomplissant ce que votre main trouve à faire que vous développerez vos talents et vos aptitudes, et c'est en négligeant les occasions qui se présentent à vous chaque jour que vous deviendrez stérile. C'est ce qui explique qu'il y ait tant d'arbres improductifs dans le jardin du Seigneur. Le Seigneur désire que nous fassions usage de tous les dons que nous possédons. Dès que nous le ferons, nous en recevrons de plus grands. Il ne fera pas un miracle pour nous accorder les talents qui nous font défaut, mais si nous faisons usage de ceux que nous possédons, il collaborera avec nous pour augmenter et fortifier chacune de nos facultés. Tout effort énergique et désintéressé au service du Maître contribuera au développement de nos talents. Il est des hommes qui se sentent pauvres dans tous les sens du terme. D'autres au corps usé par la maladie, mais humbles de cœur. D'autres qui sont avides de justice. D'autres enfin dont les premiers pas, à l'aube d'une vie nouvelle, sont malhabiles. Cet état de choses découragerait bien des serviteurs de Dieu, mais le Christ accueille avec joie les âmes qui viennent à lui. Nul n'est besoin, si nous voulons travailler pour Jésus-Christ, de nous rendre dans les pays de mission, ni même peut-être de quitter le cercle étroit du foyer, si notre devoir nous y retient. Ce travail, nous pouvons l'accomplir dans notre famille, dans notre église, parmi ceux avec lesquels nous entrons en contact ou en relation commerciale. Si nous faisons de la vie et des enseignements du Christ notre étude principale, chaque événement nous fournira l'occasion d'un discours impressionnant. La vie ici-bas est le commencement de la vie dans le ciel. L'éducation est une initiation aux principes du ciel. L'œuvre de notre vie est une éducation pour l'œuvre de la vie à venir. Ce que nous sommes quant à notre caractère et notre service envers Dieu est un surindice de ce que nous serons dans la vie à venir. Ce qui rejette le privilège de collaborer avec le Christ repousse la seule éducation qui permette de participer à sa gloire. Il méprise l'éducation qui donne la force et la noblesse de caractère. Que nul ne pense pouvoir vivre dans l'égoïsme, ne s'occuper que de ses intérêts, et entrer quand même dans la joie de son Seigneur. Il ne trouverait alors aucune saveur au contact de l'amour désintéressé. Il ne serait pas qualifié pour le ciel, et ne pourrait pas apprécier la pure atmosphère de l'amour qui le remplit. Les voix angéliques et le son des harpes ne le satisferaient pas, et la science du ciel serait une énigme pour lui. Le Seigneur nous appelle à un labeur patient et persévérant en faveur des milliers d'âmes, dispersées en tout pays, qui meurent dans leurs péchés, semblables à des épaves sur une plage déserte. Ceux qui désirent participer à la gloire du Christ doivent aussi prendre part à son ministère, en venant au secours des faibles, des malheureux, des découragés. Les gens du peuple vont entrer dans les rangs des messagers de l'Évangile. Partageant les peines de leurs prochains, comme le Sauveur partageait celles de l'humanité, ils le verront, par les yeux de la foi, à l'œuvre avec eux. Le Christ pose pour que son portrait soit reproduit en chacun de ses disciples. Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ils doivent manifester au monde l'amour persévérant du Christ, sa sainteté, sa douceur, sa miséricorde et sa vérité. Cet appel qui nous invite à tout placer sur l'autel du service s'adresse à chacun de nous. Il ne nous est pas demandé de servir comme Élisée, ni de vendre tous nos biens, mais d'offrir au Seigneur la première place dans nos vies, et par conséquent de ne laisser passer aucune journée sans faire quelque chose pour l'avancement de son règne. Nous ne sommes pas tous appelés au même travail. L'un devra peut-être partir en pays étranger, l'autre sera appelé à soutenir financièrement l'œuvre évangélique. Mais le Seigneur accepte le don de chacun. Ce qui compte, c'est la consécration de nos vies et de tout ce qui s'y rattache. Ceux qui y parviennent entendront l'appel divin et lui obéiront. L'homme du monde avisé, qui réfléchit, fait des projets et ne pense qu'à ses affaires, devrait s'efforcer d'employer sa sagesse pour les choses qui ont une portée éternelle. S'il mettait autant d'énergie à rechercher les trésors célestes et la vraie vie qui découle de la vie même de Dieu, qu'il n'en déploie à amasser des trésors terrestres, que n'arriverait-il pas à accomplir? Dieu amènera des hommes occupant des positions modestes à proclamer le message de la vérité présente. On en verra beaucoup, allant de lieu en lieu, poussés par l'Esprit de Dieu, apportant la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. La vérité est comme un feu consumant leurs os, les remplissant d'un brûlant désir d'éclairer ceux qui croupissent dans la nuit. Ils sont nombreux ceux qui, même parmi les gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction, proclameront la parole du Seigneur. Jusqu'à des enfants qui seront contraints par le Saint-Esprit à sortir pour porter le message du ciel. L'Esprit sera répandu sur ceux qui veulent s'abandonner à ses impulsions. Se séparant des lois humaines contraignantes et abandonnant toute manifestation d'excessive prudence, ils rallieront l'armée du Seigneur. La vie chrétienne comparée à un cours d'eau. Le cœur qui reçoit la parole de Dieu n'est pas comme un étang qui se dessèche, ni comme une citerne crevassée qui laisse échapper ses eaux précieuses. Il est comme un cours d'eau qui descend de la montagne, alimenté par des sources intarissables, et dont les flots rafraîchissants roulent en cascade de rocher en rocher, désaltérant ceux qui ont soif, ceux qui sont fatigués et chargés. Il est comme un fleuve qui coule sans cesse, s'élargit et s'approfondit à mesure qu'il avance, jusqu'à fertiliser la terre de ses eaux vivifiantes. Le ruisseau qui serpente en gazouillant laisse derrière lui la fraîcheur et la fertilité. Sur ses rives l'herbe est d'un vert plus éclatant, les arbres d'un feuillage plus luxuriant, et les fleurs abondent. Quand le soleil brûlant de l'été dessèche et parchemine le sol, une ligne de verdure marque le cours des eaux. Ainsi en est-il avec l'enfant de Dieu. La religion du Christ agit comme un principe vivifiant et pénétrant. C'est une force spirituelle active, réelle. Lorsque le cœur s'ouvre à l'influence divine de la vérité et de l'amour, ce principe s'affirme, comme des ruisseaux dans le désert, fertilisant les lieux arides et désolés. Les mots d'ordre du chrétien. Il y a trois mots d'ordre dans la vie chrétienne, et il faut s'en souvenir si l'on ne veut pas que Satan nous circonvienne. Ces trois mots d'ordre sont « veiller »,« prier », Travailler. Quiconque fait profession de christianisme s'engage à se développer au maximum comme ouvrier spirituel, à se montrer actif, zélé et capable au service du Maître. Le Christ s'attend à ce que chaque homme fasse son devoir. Que ceci soit le mot d'ordre dans tous les rangs de ses disciples. Paralysie spirituelle. Les forces sont décuplées par l'exercice. Tous ceux qui emploient les capacités que Dieu leur a données les verront croître pour son service. Ceux qui ne font rien dans la cause de Dieu ne peuvent grandir en grâce et en connaissance de la vérité. Un homme qui se coucherait et refuserait d'exercer ses membres en perdrait rapidement l'usage. Ainsi, le chrétien qui n'exerce pas les facultés que Dieu lui a données, non seulement ne grandira pas dans le Christ, mais encore perdra les facultés qu'il possède déjà. Il deviendra spirituellement un paralytique. Seuls ceux qui, par amour pour Dieu et pour leurs semblables, s'efforcent d'aider les autres, s'affermissent et se fortifient dans la vérité. Le vrai chrétien travaille pour Dieu non par impulsion mais par principe, non pour un jour ou un mois, mais durant la vie entière. Le remède efficace. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu, la foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrues. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins. Il est tout-puissant, son amour et sa compassion infinie ne se lassent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. Pour guérir la paresse spirituelle, il n'existe qu'une thérapeutique agissante, c'est l'activité en faveur des âmes qui ont besoin de votre aide. Tel est le remède que le Christ a prescrit pour toute âme craintive, sujette aux doutes, tremblante. Que ceux qui sont affligés, qui marchent avec tristesse devant le Seigneur, se lèvent et viennent en aide à ceux qui ont besoin d'être secourus. Les chrétiens qui ne cessent de croître en ardeur, en zèle, en ferveur et en amour, de tels chrétiens n'apostasient jamais. Ce sont ceux qui ne sont pas engagés dans ce travail désintéressé qui ont une faible expérience, et qui s'épuisent à lutter, douter, murmurer, pécher et se repentir jusqu'à ce qu'ils perdent le sens même de ce qu'est la véritable religion. Ils sentent qu'ils ne peuvent retourner dans le monde et ils s'accrochent donc au basque de Sion, manifestant de mesquines jalousies, de l'envie, du désappointement et du remords. Ils sont remplis d'un esprit de critique et se repaissent des fautes et des erreurs de leurs frères. Ils n'ont qu'une expérience dépourvue d'espérance, de foi et de lumière dans leur vie religieuse. Des excuses inacceptables. Lorsque Jésus s'en alla, il distribua à chaque homme sa tâche. Rien à faire est une excuse inacceptable. Rien à faire est la raison de l'épreuve qui sévit parmi les frères. Car Satan remplira les esprits des paresseux de ses propres plans, et les mettra au travail. Rien à faire porte un mauvais témoignage parmi les frères, et la dissension dans l'Église du Christ. Jésus dit, « Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Frères et sœurs, beaucoup parmi vous se récusent sous le prétexte qu'ils sont incapables de travailler pour autrui. Dieu vous a-t-il donc fait si incompétent? Cette incapacité n'est-elle pas le résultat de votre inaction? Ne se prolonge-t-elle pas par votre propre choix? Dieu ne vous a-t-il pas donné au moins un talent à faire valoir, non pour votre convenance ou pour votre profit, mais pour son service? Vous êtes-vous rendu compte, en tant que serviteur à ses gages, de votre obligation de lui apporter un revenu par l'emploi judicieux et sage de ce capital qu'il vous a confié? N'avez-vous pas négligé les occasions de perfectionner vos facultés à cet égard? Il est trop exact que bien peu ont vraiment compris leur responsabilité envers Dieu. Beaucoup de gens s'imaginent que le fait d'être engagés dans les affaires les empêche de faire quelque chose en faveur du salut des âmes et de l'avancement de la cause de leur Rédempteur. Ils disent qu'ils ne peuvent se contenter de faire les choses à moitié, et, par conséquent, ils s'écartent de leurs devoirs religieux et se plongent dans le monde. Leurs affaires deviennent leur principale préoccupation et ils oublient Dieu, qui en est affligé. Ceux qui sont engagés dans des affaires qui ne leur laissent pas la possibilité de progresser dans la vie spirituelle et de se sanctifier dans la crainte de Dieu, feraient bien de choisir une autre occupation où ils pourraient bénéficier à chaque instant de la présence de Jésus. Visez la couronne incrustée d'étoiles. Nous ne devons être ni fatigués, ni timorés. Ce serait une perte terrible que d'échanger une gloire éternelle contre des aises, des commodités, des satisfactions ou des plaisirs charnels. Un don direct de Dieu attend celui qui vaincra. Aucun de nous ne le mérite. C'est un don gratuit de sa part. Et ce don sera merveilleux et glorieux, mais souvenons-nous que même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tandis que l'on nous presse de nous disputer la supériorité, visons, par la force de Jésus, la couronne incrustée d'étoiles. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Racheter en vue du service. À sa venue, le Christ demandera chaque talent qu'il nous a confié, et il en exigera les intérêts. Par son humiliation et son agonie, par sa vie de souffrance et sa mort ignominieuse, il a payé les services de ceux qui se réclament de son nom et se disent ses disciples. Tous ont le devoir impérieux de mettre à contribution leurs facultés pour lui gagner des âmes. Vous ne vous appartenez point à vous-même, dit saint Paul. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu par une vie de service qui fera passer hommes et femmes du péché à la justice. Nous avons été rachetés au prix de la vie du Christ, et, par un fidèle service, nous devons rendre au Seigneur ce qui lui revient. Dieu m'a donné un message pour son peuple. Il doit se réveiller, élargir l'espace de ses tentes et étendre ses frontières. Mes frères et sœurs, vous avez été rachetés à un grand prix, et tout ce que vous êtes et ce que vous avez doit être employé à la gloire de Dieu et pour le bien de vos semblables. Le Christ est mort sur la croix pour sauver le monde de la perdition. Il demande votre coopération dans cette œuvre de salut. Vous devez être ses collaborateurs. Par des efforts sincères et permanents, vous devez chercher à sauver ceux qui sont perdus. Souvenez-vous que la croix a été rendue nécessaire par vos péchés. Les disciples du Christ ont été rachetés en vue du service. Ils doivent se dépenser pour Dieu et pour leurs semblables. Notre Seigneur enseigne que le véritable but de la vie, c'est l'utilité commune. Le Christ lui-même fut un ouvrier, et il a fait du travail une loi pour tous. La loi du service est l'anneau qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Allez de l'avant. La vie chrétienne est souvent entourée de dangers, et le devoir semble difficile. L'imagination dépeint une ruine imminente suivie de l'esclavage et de la mort. Néanmoins, la voix de Dieu dit clairement, allez de l'avant. Obéissons à ce commandement, même quand nos regards ne peuvent pas pénétrer les ténèbres. Les obstacles qui retardent nos progrès ne disparaîtront jamais devant un esprit qui hésite et doute. Ceux qui diffèrent leur obéissance jusqu'à ce que toutes les incertitudes aient disparu et qu'ils ne courent aucun risque d'échec, n'obéiront jamais. La foi regarde au-delà des obstacles, et elle s'empare de l'invisible, de la toute-puissance. Aussi ne sera-t-elle jamais confuse. Elle consiste à saisir la main du Christ lorsque surviennent les difficultés. Nos idées sont beaucoup trop étroites. Dieu demande un continuel progrès de l'œuvre qui consiste à diffuser la lumière. Il faut étudier les différents moyens d'atteindre les gens. Nous devons écouter avec les oreilles de la foi le puissant capitaine des armées du Seigneur, lorsqu'il dit, en avant. Nous devons agir, et Dieu ne nous abandonnera pas. Il fera sa part si nous faisons la nôtre par la foi. Frères et sœurs qui êtes depuis longtemps dans la vérité, vous n'avez pas accompli la tâche que Dieu vous avait appelé à faire. Où est votre amour pour les âmes? C'était une joie pour le Christ que de sauver des âmes. Que ce soit aussi votre œuvre et votre joie. Acquittez-vous de tous les devoirs et consentez à tous les sacrifices pour la cause du Christ, et il sera votre constant soutien. Allez de l'avant, là où la voie du devoir vous appelle. Qu'aucune difficulté ne vous retienne. Endossez les responsabilités que Dieu vous confie, et tandis que vous portez votre fardeau quelquefois bien lourd, ne demandez pas. Pourquoi mon frère se complaît-il dans la paresse? Pourquoi aucun joug ne lui est-il imposé? Accomplissez la tâche qui vous est la plus proche, et faites-la soigneusement et consciencieusement, sans en rechercher de louange, mais travaillant pour le maître parce que vous lui appartenez. La marche du peuple de Dieu doit être orientée vers la victoire, en avant et toujours plus haut. Les armées d'Israël sont conduites par quelqu'un qui est plus grand que Josué. Le capitaine de notre salut est au milieu de nous et, pour nous encourager, il nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous mènera à une victoire certaine. Ce que Dieu promet, il le réalise à n'importe quel moment. Et l'œuvre qu'il donne à accomplir à son peuple, il peut l'accomplir pour lui. Pourquoi l'Esprit du Christ ne s'empare-t-il pas de nous avec enthousiasme? Pourquoi les pitoyables appels d'un monde qui souffre nous émeuvent-ils si peu? Apprécions-nous à sa juste valeur l'exaltant privilège de pouvoir ajouter une étoile à la couronne du Christ, Une âme dégagée des chaînes auxquelles Satan l'avait liée, une âme introduite dans le royaume de Dieu. L'Église doit prendre conscience de son devoir de porter l'évangile de la vérité présente à toute créature. Je vous demande instamment de lire les chapitres 3 et 4 du livre de Zacharie. Si ces chapitres sont compris et reçus, une œuvre s'accomplira en faveur de ceux qui ont faim et soif de justice, une œuvre qui signifie pour l'Église, va, en avant et toujours plus haut. La grande majorité des habitants de cette terre s'est soumise à l'ennemi. Mais nous n'avons pas été trompés, malgré l'apparent triomphe de l'adversaire, le Christ poursuit son œuvre sur cette terre comme dans le sanctuaire céleste. La parole de Dieu décrit la méchanceté et la corruption des hommes telles qu'elles existeront dans les derniers jours. L'accomplissement des prophéties devrait fortifier notre foi dans le triomphe final du Christ et renouveler notre courage pour poursuivre la tâche qui nous a été dévolue. Une scène impressionnante. Une scène fort impressionnante a passé devant moi dans les visions de la nuit. J'ai vu une immense boule de feu tomber au milieu d'un groupe de belles maisons, et les détruire instantanément. Quelqu'un dit alors, « Nous savions que les jugements divins allaient visiter la terre, mais nous ne pensions pas que ce serait si tôt. » D'autres, épouvantés, disaient, « Vous saviez ces choses, et vous ne nous en avez rien dit. Nous les ignorions, nous. » De tous côtés j'entendais de semblables reproches. Je me réveillais dans une grande détresse. M'étant rendormi, il me semblait être dans une vaste assemblée. Un homme influent parlait devant elle, en se servant d'une map monde. « Ce globe, disait-il, représente la vigne du Seigneur, qu'il faut cultiver. La lumière céleste brille sur chacun de nous, et nous devons la transmettre à d'autres. Il faut créer des foyers lumineux en maints endroits pour qu'ils se multiplient. » Ces paroles se firent entendre à nouveau, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » J'ai vu des jets de lumière provenant de villes et de villages, de la montagne et de la plaine. La parole était suivie, et dans ces villes et ces villages se dressaient des monuments à la gloire de Dieu. La vérité était proclamée dans le monde entier.